On va voir si ça marche. On m'a donné la parole, donc c'est bon, je peux démarrer. Donc bonjour, je m'appelle Olivier Dupont, je suis consultant ALM et fondateur de la société Techigo, qui existe depuis 2005. Et on travaille sur tout ce qui est efficience du logiciel au sens large. Et je suis accompagné de Grégory Hiot, qui est expert en industrialisation logicielle et Visual Studio et Team System. Donc le sujet aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait plein de monde, parce que c'est un sujet un peu particulier. Le DevOps, soyez réactif. J'ai voulu adresser ça du côté pourquoi on fait tout ça, et de se focaliser sur la satisfaction de nos utilisateurs et faire un petit peu la chaîne inverse. Au lieu de montrer d'abord de la technique, c'est d'expliquer un peu pourquoi on le fait finalement, et après l'illustrer par de la technique. Donc juste avant celui-ci de slide, vous avez dû le voir un certain nombre de fois, donc il faut écouter la session et après il faut nous noter et vous pouvez gagner des lots. Donc juste un petit peu avant pour commencer, parce qu'il y a plusieurs approches, moi j'aimerais un tout petit sondage, vous levez juste la main, c'est de savoir plutôt qui est éditeur logiciel en profil. C'est juste pour adapter un petit peu si vous voulez, parce que vous allez plus parler de produits et de services à destination d'un client. Combien il y en a qui sont plus dans le système d'information, dans le line of business? Ok. Eh ben c'est cool, c'est la moite-moite, ça va être pratique. On va plus parler effectivement d'applications et de services, mais pour des utilisateurs, et en règle générale, on parle quand même de clients. En termes de profil IT, parce qu'on mélange un petit peu tout, qui est plus IT, administration, infrastructure, environnement? Ouais. Eh ben c'est cool, on vient plus du dev. Ça va être bien. Profil développeur, j'imagine, une bonne partie. On est bien, donc tout le monde a envie de faire de la qualité. Et en profil, un peu marketing, DSI, système d'information, officer, ouais. Donc, on fait la totale. Il y en a d'autres qui sont venus parce qu'il n'y avait pas de place dans les autres sessions. Bah ouais, normal, je les avais. Voilà, alors l'idée c'est ALM, DevOps, SCOM, TFS, Application Insight, APM, il y a plein de produits, plein de solutions, plein de termes. Donc l'idée c'était de, oui mais pourquoi faire? Et je l'abordais un peu différemment. L'idée, c'est quoi? C'est que ce qu'on veut faire, c'est un produit de qualité. On part d'une idée, dans le but de faire du business, on code, on met en production. Et l'objectif, c'est qu'un utilisateur utilise notre produit à des fins de retour sur investissement qui peuvent être diverses, pas forcément financiers, que ce soit une application, un service, un système d'information ou un produit au sens boîte, tout ça pour satisfaire Ingrid Qualitat. D'accord? La satisfaction utilisateur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il attend l'utilisateur? Pourquoi on code pour cet utilisateur? Tout simplement parce que on est dans un environnement Atawad. Anytime, anywhere, any device, elle veut son information tout le temps, elle veut son service rendu tout le temps, qu'il soit disponible, avoir une interface graphique qui correspond parfaitement à son usage en fonction de où elle exécute et où elle utilise son application. Évidemment, la base de toute la qualité logicielle, c'est qu'elle la veut sans bug, et elle veut que ses applications, que ses services rendus soient bien dans le temps d'usage, dans le time to market, si on parle plus de produits, et si on est dans l'entreprise, on est plus à se poser la question de voir comment, sur la business value, on va plus être sur comment je vais rendre mon entreprise et mes collaborateurs plus performants, plus productif et leur rendre la vie plus belle grâce au logiciel. Donc, si je regarde maintenant comment on répond à cette satisfaction utilisateur, on a une équipe pour réaliser ça, qui ont différents rôles. On a tout ce qui est marketing ou PO pour le product owner, si on fait un peu de Scrum, c'est un peu histoire de mélanger. Leurs objectifs au marketing, à la gouvernance, ça dépend de l'organisation de la société et de la taille, c'est de pouvoir acquérir des clients, et au fur et à mesure qu'on acquiert des clients, c'est aussi de pouvoir les conserver, ces clients. Tout en proposant des nouvelles features dans un time to market qui est de plus en plus serré, qui va de plus en plus vite, on est dans le logiciel, donc on innove en permanence, donc il faut aller vite, et toujours dans un objectif de retour sur investissement. Encore une fois, quand je dis retour sur investissement, on mélange les genres, c'est pas uniquement financier, ça peut être un service rendu, une utilité du logiciel. Et on a toujours cette notion de devoir réduire les coûts. Ce marketing, il va travailler avec les BA, les business analysts et les ergonomes. Eux, ils vont vraiment se poser la question de dire « Ok, on a la ligne directrice, on a du marketing, on a une idée, on a du business, on sait comment à peu près on veut faire notre produit », mais eux, ils vont devoir définir tous les cas d'utilisation, tous les nouveaux usages, et il va falloir surtout qu'ils les anticipent. C'est-à-dire que première version du produit, on ne sait pas encore, donc on va imaginer ce qu'on va développer. Il doit donc anticiper les futurs cas d'utilisation avant même qu'il ait livré sa première application, parce qu'il veut essayer de livrer la meilleure version tout de suite. L'ergonome, lui, va essayer de proposer toute une interaction, toute une façon de manipuler ses fonctionnalités. Et au début, il ne connaît pas forcément très bien ses utilisateurs, où ça coûte très cher de faire de l'audit et du panel utilisateur. J'y reviendrai plus tard. Et il a besoin de définir, de profiler ses utilisateurs. Côté IT, eux, ce qu'on leur demande, et son rôle, ses enjeux à l'IT, c'est de pouvoir justement de stabiliser, de rationaliser l'environnement d'exécution. Je vous rappelle, c'est toujours pour répondre à toutes les attentes d'Ingrid. Et il doit fournir une qualité de service et une SLA en permanence. Et en cas de problème, il doit être en mesure de pouvoir remonter son environnement, remonter les applications très rapidement. C'est ça, ses enjeux. Lui, il ne faut pas que ça bouge. Côté développement, ils reçoivent toutes les demandes de use case dans un but business, donc il faut qu'ils soient conformes à toutes les exigences qui sont exprimées, qu'ils codent vite, qu'ils codent bien, et en plus qu'ils refactorent régulièrement, parce qu'il faut le maintenir, ce code, pour qu'il reste toujours évolutif en fonction des nouvelles demandes du marketing ou des cas particuliers des use case des business analysts ou de l'ergonome qui propose des approches un peu innovantes. Donc, si vous voulez, tout ce petit monde travaille en permanence, ont des enjeux parfois divergents, parce que le développement, ils sont plutôt dans l'innovation et la rapidité. La stabilité, on essaye, mais c'est un peu moins leur truc par rapport à l'IT, ce qui fait parfois un petit peu des contentions. Et toute cette équipe, en permanence, je n'ai pas la souris qui s'affiche, si, tant pis, toute cette équipe est soumise à tout ce qui est changement, et en plus, maintenant qu'on a des approches assez agiles et itératives, c'est des changements continus qui sont volontaires, voulus par l'organisation de l'entreprise et toute la chaîne de développement. Mais il y a aussi tous les changements qui sont autres, qui peuvent être juridiques, concurrentiels, techniques. Enfin bon, il y a tout ce que vous pouvez avoir comme changement dans le cadre d'un projet. Maintenant, cette équipe et ses rôles, quand on regarde leurs enjeux, on les organise dans une chaîne de valeur complète dans l'entreprise. Alors, je voulais juste repréciser un petit peu, voilà. C'est quoi l'ALM, l'application Lifecycle Management ? C'est vraiment de partir de l'idée complètement à gauche et de la transformer en usage, en valeur, en service rendu. On ne parle plus de faire juste du logiciel, juste une boîte et du code. L'idée, c'est vraiment un processus d'entreprise complet, une chaîne de valeur de production complète. Chaque rôle à son propre cycle de vie, à ses propres activités de processus qui s'enchaînent les uns avec les autres. Et il y a un petit sous-processus au niveau de l'ALM, qu'on a regroupé sous le terme de DevOps à un moment donné, dont l'objectif est justement de rapprocher encore plus les développeurs et l'IT pour essayer de livrer plus vite le code qui a été produit. Donc le DevOps, c'est quoi ? C'est des développeurs qui vont s'appuyer sur une usine logicielle complète et qui vont travailler avec l'environnement, avec l'exploitation et l'opérationnel, qui eux vont maintenir leur environnement IT. Et l'idée, c'est d'avoir tous les outils, ça va. L'idée, c'est d'avoir un alignement des outils pour favoriser la collaboration. Maintenant, moi, je voulais, toujours sur ce processus, ce que je voulais illustrer, c'est que finalement, sur cette chaîne de production, finalement, complète, on a deux étapes. On a une étape qui est très proactive. Je vous rappelle, le but, c'est toujours d'obtenir la satisfaction d'Ingrid. Et Ingrid, ce qu'elle veut, c'est une application sans bug, elle la veut tout de suite, elle la veut sur tous ses devices, des environnements différents, etc. On a toute une phase de proactive. C'est tout ce qui est en amont, toute la partie, finalement, business, dev, et une partie de l'assurance qualité. Mais quand on fait la première version du logiciel, on est un peu dans une démarche quand même un petit peu de simulation et d'hypothèse. Même pour les tests, on est dans l'hypothèse, puisqu'on ne peut pas faire tous les cas de tests et tous les scénarios de tests, ça coûte relativement assez cher. Parfois, on en fait la passe, et parfois, on ne sait même pas, même le marketing, même le business analyst très spécialisé, ne sait pas tous les cas d'utilisation qu'il va falloir livrer à l'utilisateur. Et d'un autre côté, quand on passe dans le monde de l'exploitation et dans le monde réel, c'est-à-dire que notre produit, notre service, on le met vraiment à disposition de nos utilisateurs, là on est en live, on est dans du réel, on est dans du factuel. Et là on est plus dans un mode réactif, c'est-à-dire je dois toujours maintenir mon produit, mais on va réagir par rapport au feedback que nous font les utilisateurs. Feedback positif, s'il nous dit hey, « il manque cette fonctionnalité, j'aimerais bien l'avoir », ça c'est top. Maintenant ça peut être « j'ai un gros bug parce que le cas d'utilisation n'a pas été testé, parce que en environnement de test, ça fonctionnait bien parce qu'on était dans un environnement contrôlé. Et puis là, on est en production dans un autre environnement qui est potentiellement moins bien contrôlé, en tout cas tel que le voyaient les développeurs. Et il faut réagir vite. Et le propos, un petit peu, DevOps, c'est quoi ? C'est la capacité finalement d'avoir un curseur entre ces deux mondes. Moi, l'idée, c'est de le voir un petit peu comme ça. Et de se dire, on essaye d'être le proactif le plus possible. Ça, c'est toute l'équipe de développement. C'est tout ce qu'on fait de travail au quotidien quand on parle de qualité logicielle. Et l'idée, c'est de dire, parfois, si on essaye d'être plus réactif sur la mise en dans le cadre du logiciel qui s'exécute en production, si on arrive à faire communiquer ces demandes assez rapidement, ça nous permet de bouger un petit peu ce curseur entre proactif et réactif, et pouvoir finalement dire, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire en test, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en faire, on est bien d'accord, il y a de la gestion de risque sur les tests à réaliser, mais tout ce que, potentiellement, pour rester dans le time to market, on n'a pas le temps de faire en amont, ou qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas la vision, il faut accepter qu'on ne peut pas tout prévoir, c'est de dire, on le met en production, et par contre, on s'organise pour être très réactif, pour qu'à la moindre modification, la moindre évolution, le moindre comportement de l'utilisateur, on soit capable de tout de suite réinjecter de la nouvelle fonctionnalité ou de se réadapter, de réadapter nos use cases qui n'auraient peut-être pas bien imaginés au départ. L'idée aussi, parce que le sujet, je vous ai dit, DevOps, comment on va accélérer, on va tout axer, l'objet de cette session, finalement, j'y viens, c'est de dire, on va tout axer par rapport à la télémétrie, par rapport à l'instrumentation de l'application et la collaboration entre les développeurs et l'IT. Donc, l'idée, c'est de dire, comment je vais fédérer ma télémétrie. Ce qui m'intéresse, moi, c'est des cas réels, on n'est plus dans l'hypothèse et la simulation, c'est de collecter des faits, de les versionner par rapport à ce qu'on livre, parce qu'on est, je vous rappelle, on est quand même dans des itérations, on est dans une évolution dans le temps, et il faut gérer ce changement, parce qu'on subit des changements pendant qu'on fait nous-mêmes des évolutions. Et donc, la télémétrie est intéressante parce qu'elle est utile à tout le monde. Pour le marketing, pour les responsables produits, ça va être pour comprendre les feedbacks, pour comprendre comment fonctionnent leurs utilisateurs, pour arbitrer également, de dire j'ai des bugs qui reviennent, j'ai des demandes d'amélioration, je pourrais moi-même, en regardant mes utilisateurs, voir ces améliorations-là, et je dois arbitrer parce que j'ai un budget à tenir pour définir mes prochaines roadmaps et mes prochaines releases. C'est aussi un moyen de valoriser les fonctionnalités qu'on demande. Parce que souvent, le marketing, responsable produit, parfois, vu du développement, ils font des demandes, on passe beaucoup de temps à les développer, on passe beaucoup de temps à les maintenir, et puis parfois, elles ne sont pas utilisées. Donc finalement, c'est à perte. Donc l'objectif, c'est aussi de valoriser factuellement ces fonctionnalités, ces usages qu'on fait de l'application ou du service qu'on rend. Pour le développeur et pour l'assurance qualité, c'est de pouvoir corriger vite, pouvoir aussi s'adapter et de pouvoir aussi optimiser. Je rappelle que quand tout va bien, on est toujours dans une logique de refactoring du code pour qu'il reste maintenable, et en même temps, on recherche l'optimisation pour réduire les coûts de ressources pour l'IT, parce qu'on travaille avec l'IT et pas contre l'IT. Et au niveau de l'IT, eux, ce qu'ils ont besoin comme élément télémétrique, c'est les moyens de garantir le service, donc c'est du monitoring, c'est de la surveillance en permanence de tous les environnements pour s'assurer que ça se passe bien et d'anticiper le dimensionnement de l'environnement pour pouvoir exécuter la solution. Donc ce qu'on vous propose maintenant, parce que l'objectif c'est quand même faire des démos, c'est qu'on va l'illustrer par des démonstrations, et j'en ai juste pour un ou deux slides supplémentaires, c'est de dire, voilà, on va vous présenter deux scénarios. On va vous présenter un scénario de collaboration entre l'IT et le dev au niveau DevOps, entre la partie du bas qui va être la solution System Center, Opération Manager et l'intégration avec TFS Online ou On-Premise, dans les deux cas ça fonctionne. Ce System Center qui pilote un MMA qui est un Microsoft Monitor Agent qui existe aujourd'hui en standalone si on n'a pas SCOM et qu'on peut piloter également par du code, qui va nous remonter les informations de tout ce qui est télémétrie propre à l'environnement, propre à l'IT, propre de là où s'exécute le code. Et ensuite, on a un deuxième scénario qui est une nouveauté chez Microsoft et qui est encore en preview actuellement, qui est Application Insight. Et l'objectif, c'est que mon application, qui est représentée là par plusieurs couches qui s'exécutent sur des environnements entiers, c'est d'intégrer justement App Insight dans le monitoring des applications, quelle que soit la nature de ces applications-là, de manière à remonter tout un tas d'informations qu'on va collecter, qu'on va mettre en corrélation avec les indicateurs de performance de l'environnement. Et après, on va dérouler la démonstration pour vous expliquer ça en détail. Donc, il y a deux scénarios. Il y en a un qui est purement online. C'est quand on n'a pas la solution SCOM, parce que SCOM, ça s'adresse plutôt bien à un système d'information. C'est un petit peu, bien que ça puisse se faire en mode SaaS, c'est un petit peu plus compliqué pour un éditeur logiciel. En revanche, Application Insights, son positionnement est justement de permettre de rapidement d'avoir des systèmes de monitoring, et on va voir les différences qu'il y a par rapport à des systèmes de monitoring existants actuellement sur le marché. Très rapidement sur SCOM et son intégration avec TFS, et après je pourrais laisser la main à Grégory, on va l'axer uniquement sur cet aspect-là. Je vous ai dit comment on est réactif vis-à-vis de la satisfaction utilisateur. Là, on va être déjà réactif sur un environnement de production et de dire comment je réagis en cas d'incident et comment les deux équipes travaillent grâce à des outils qui communiquent entre eux. Donc on est dans une logique de triage d'incidents, quel que soit le staging, en test ou en production. Et l'objectif est bien de pouvoir fédérer les compétences IT et dev, parce que parfois les incidents qui arrivent en prod, c'est un petit peu des problématiques de code liées à des problématiques d'environnement. Et deuxième aspect important, c'est la gestion de la configuration. C'est-à-dire c'est vraiment la gestion de toute la partie versionning de code, de build, de toute la partie release management, pour s'assurer que la modification qui vient de la production, on est reparti dans le développement, on est capable de revenir en arrière, on est capable de tracer tout ce qui s'est passé entre un état de l'application et son état suivant. Ça rassure tout le monde et pas uniquement l'IT. Grégory, je te laisse démarrer la démo sur SCOM. 5 minutes près, je suis pas trop mal.
Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter la démo d'interconnexion entre SCOM et Team Foundation Server. Donc pour ça, moi, j'ai monté un environnement dans Azure à base de machines virtuelles. Donc j'ai 4 machines virtuelles dans Azure. Un AD, un data tier avec SQL Server 2012, un application tier avec Team Foundation Server et un 2IS, et mon serveur SCOM. Donc là, je vais prendre ma casquette d'IT. Je vais avoir 2 casquettes, la casquette de dev, la casquette d'IT. Pour que vous ne soyez pas perdus, je mets une vraie casquette. Donc, côté SCOM, dans l'administration, j'ai installé tous les management packs qui me permettent de faire de la PM, donc 2IS8, l'alerte attachement, et ce genre de choses. J'ai aussi installé le management pack de synchronisation pour Team Foundation Server. Donc, 2 choses à noter sur ce management pack, ce qui est important si vous voulez le faire chez vous. La première, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle version pour TFS 2013. C'est la même version depuis TFS 2010. C'est toujours le même management pack. Il y a eu une petite mise à jour du template du work item qu'il faut installer dans votre serveur TFS, mais sinon, c'est exactement le même. Il y avait jusqu'à il y a 2-3 semaines, jusqu'à la cumulative update de System Center, la cumulative update 5 de System Center, il y avait un petit problème pour les TFS localisés qui ne sont pas en anglais en fait. Ça a été corrigé il y a 2 semaines, donc si vous l'avez déjà testé, vous pouvez le retester, a priori maintenant ça marche. Et dernière chose intéressante, qui n'a rien à voir avec cette démo, mais qui est intéressante dans le cadre de l'ALM, c'est que le management pack de monitoring de Team Foundation Server 2013 est sorti la semaine dernière. Donc maintenant, vous pouvez monitorer votre tout beau serveur TFS 2013.
Donc l'idée, c'est de pouvoir monitorer également les outils qui nous servent à monitorer l'application.
Exactement. Côté template, donc j'ai 2 templates. J'ai un template pour mon application en production, Fabricam Fiber. Je vous fais juste une petite démo tout à l'heure si vous ne l'avez pas encore vu dans les nombreuses sessions Tech Days que vous êtes allé voir. Donc c'est ce qui me permet en fait de collecter mes alertes APM depuis mon application ASP.NET. Et j'ai aussi le template de synchronisation TFS. C'est là-dedans que je vais paramétrer la collection sur laquelle je tape et l'endroit où je vais synchroniser mes work items. Donc là, voilà, j'ai choisi un projet et un array à passe par défaut. Comme je sais que c'est une application web, j'y pose directement dans l'appli web. Donc côté monitoring, côté application d'abord. Donc mon application, c'est Fabricam Fiber. Fabricam Fiber, c'est une société qui va câbler les usagers pour Internet, on va dire, quelque chose comme ça. Et ça, c'est leur application de support en interne pour gérer les tickets clients. Donc c'est un dashboard classique, voilà. Et puis on a un onglet report qui nous permet d'avoir un report, mais là a priori ça marche pas. Okay. Donc évidemment dans SCOM, mon alerte elle va finir par sortir à un moment ou à un autre. Donc j'ai ici une alerte qui présente cette erreur. Donc moi avec ma casquette IT, je vais me poser la question, est-ce que déjà, moi, est-ce que je suis capable de savoir si ce problème-là, ça vient plutôt de moi ou est-ce que ça vient plutôt du dev? Donc déjà, je vais vérifier mon environnement. Ça tombe bien, je suis dans Scom. Je peux aller voir, je sais pas, mon serveur SQL, par exemple. Est-ce qu'il est avec mon management pack qui me permet de monitorer mon SQL? Donc je vais aller voir si j'ai des alertes là. Bon, a priori, tout va bien. Je vais voir mes alertes réseau. Je vais voir mes alertes sur mes serveurs Windows. Et une fois que j'ai fait le tour et que mon infra me paraît stable, que j'ai pas de problème, ou en tout cas que j'ai rien détecté, je vais pouvoir transmettre cette alerte à mon développeur. Donc préalablement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démarré l'IntelliTrace Collection. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va demander au serveur 2IS de collecter l'IntelliTrace pour pouvoir collecter un maximum d'informations que je vais pouvoir ensuite transmettre au développeur. Moi, en tant qu'IT, je suis conscient qu'il faut que je fournisse un maximum d'informations à mon développeur pour qu'il soit, lui, en mesure de corriger au mieux. Donc je vais transmettre cette alerte à mon développeur. Ici, j'ai l'alerte en fait dans Scom, elle a son propre workflow. Je ne sais pas si vous connaissez Scom, mais en tout cas c'est le cas. Elle a son propre workflow. Pour l'envoyer à mon développeur, je la signe à l'engineering. Okay. Là, j'enlève ma casquette d'IT et je prends ma casquette de développeur. Donc ici je suis développeur, hop. J'ai mon operational issue qui est arrivé ici. Alors, l'operational issue, c'est un work item. Là, le team project que j'ai créé, c'est un team project que j'ai créé avec le template MSF Agile 5.0. On aurait pu imaginer le créer avec Scrum, avec le template par défaut Scrum, le template CMMI ou n'importe lequel de vos templates perso maison. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. C'est donc aussi, et là je voulais faire juste une petite parenthèse là-dessus, pour l'instant, ça ne fonctionne pas dans Visual Studio Online parce qu'on ne peut pas créer des work items personnalisés. Donc, vraisemblablement qu'un jour ça sera possible. Quand ça sera possible, on pourra sûrement mettre ce work item dans VSO et ça sera sûrement synchronisable avec Visual Studio Online. Pour l'instant, ça, ce scénario-là, il fonctionne comme prémisse que sur votre TFS chez vous. Donc ce work item-là que j'ai intégré dans mon template de projet, il a comme n'importe quel work item, un titre de façon tout à fait classique, il a ses informations de classification. À noter qu'ici il a été créé automatiquement dans l'area Fabricam Web, comme je lui avais demandé, donc ça c'est plutôt cool, jusque-là la démo ça fonctionne. Et bon voilà, il a les informations de statut, priorité, sévérité, donc ça aussi, à noter que la priorité, la sévérité, ça peut être configuré en surchargeant des règles, les règles de la synchronisation TFS dans Scom, et on peut mettre des valeurs par défaut différentes, par exemple une priorité de 1 et une sévérité high, si vous voulez, quoi. On a un certain nombre d'informations liées à l'environnement qui a remonté ça, notamment le nombre de fois que l'alerte est remontée. Bon, là, une fois, ça aurait pu être 250, là, ça devenait vraiment critique. Et puis, on va retrouver, en gros, toutes les informations qui sont dans mon alerte Scom, notamment la description, ici, avec le lien qui va nous permettre d'accéder à la console web de Scom. Je vous montre ça juste après. Les custom properties, le product knowledge qui vient directement aussi de Scom et de l'alerte APM. L'historique, les liens, voilà, puis les attachements. Donc là, à noter dans les liens, c'est que comme j'ai déjà fait la démo avant de venir, il m'a automatiquement retrouvé les operational issues qui étaient liées à l'alerte similaire synchronisée que j'avais clôturée, en fait, qui est réapparue. Donc comme ça, on sait tracer aussi ici que l'alerte s'est déjà produite. Et lui, il m'a mis automatiquement en lien related les autres work items qui étaient liés à la même alerte. Et donc si je vais suivre ce lien, j'ai accès à la console Scom, donc ça j'aurais pu le faire effectivement de la même manière dans la console Scom dure, et là je vais trouver déjà les premières informations qui vont me permettre d'explorer mon problème, notamment mon exception, la stack trace, les événements similaires, les événements relatifs, etc. Les compteurs de performance, là je peux peut-être voir si c'est pas lié à une surcharge de trafic dans mon application. Voilà, vous pouvez imaginer n'importe quel scénario autour de ça. Voilà donc déjà ce que je vais faire, parce que je vais quand même accepter ce work item. Donc là, je vais en gros signifier à mon IT que j'ai bien pris en compte sa demande. Donc je vais sauvegarder ça. Hop, je reprends ma casquette d'IT et je vais sur mon environnement.
Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est que tout ça, c'est versionné, ça a quand même une plus-value qui est énorme par rapport à l'échange de mails, par rapport à la création de formulaires de demandes d'incidents qu'on se fait passer, qui mettent quelques jours à venir ou à être triés par différents services.
Donc là, on voit que le statut de ma résolution a changé. Hein. J'étais tout à l'heure à Assign to Engineering, là je suis passé à Acknowledge, donc on a bien la synchronisation qui se fait correctement. Jusque-là, la démo fonctionne. Et si je l'ouvre, c'est ce que vient de dire Olivier, j'ai l'historique de ce qui s'est passé. Et moi, côté IT, je sais ce qui s'est passé dans mon work item côté dev. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Tout comme ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, le product knowledge qui est dans le work item, c'est le même que celui qui est attaché à l'alerte, etc. Accessoirement, j'aurais pu dire que côté IT, je m'assigne à moi l'alerte pour pouvoir la suivre et pour pouvoir assurer le suivi avec la communication avec mon développeur. Donc voilà, ça sera notifié de l'autre côté. Et donc ce qui est intéressant aussi, dans cette vue personnalisée de SCOM, j'ai rajouté deux colonnes, donc le Work Item ID et le Work Item Owner. Et ici, je vois qu'il y a déjà un Work Item qui a été créé avec l'ID 22 et qui est déjà en révision 3 sur TFS. Donc ça c'est intéressant de pouvoir tracer ça. Et le management pack nous apporte aussi cet ensemble de vues-là, où je vais avoir ici les alertes, toutes celles qui sont... d'ailleurs, elle devrait apparaître ici. Voilà, elle apparaît ici. Enfin, tous les statuts de mes alertes en cours. Et voilà, donc ça permet d'avoir un petit dashboard pour suivre l'activité des alertes que j'ai transférées aux devs et qui m'ont été retransférées pour traiter, pour par exemple mettre en production suite à une correction, etc. Donc je retourne côté dev. Bah, je vais quand même bosser un petit peu en tant que dev à un moment donné. Donc là, je l'ai accepté. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais me l'assigner à moi. Comme ça, déjà, côté ops, je saurai que ça a été pris en compte. Je vais me créer une petite tâche que je vais associer. Alors, je vais pas la créer par là, je vais plutôt la créer par là. Je vais me créer une nouvelle tâche que je vais associer en tant qu'enfant à cette operational issue, histoire de tracer en fait ma correction, hein, comme je ferais dans n'importe quel projet. Alors là, l'operational issue, je l'ai laissé dans son coin. Après, vous pouvez la binder sur des exigences, sur des anomalies, enfin ce que vous voulez. Hein. Après, on peut utiliser les méta types de work item pour pouvoir traiter au sein du backlog l'operational issue si on est plutôt en staging, et puis peut-être plutôt au sein d'un backlog d'anomalies si on est en prod déjà. Quoi. Donc correction du problème sur le report. Okay. La petite faute de typo, elle passera quand même. Bon, moi je pense qu'il me faut 2 heures. C'est très approximatif, hein, parce que je ne sais pas vraiment encore combien de temps ça peut me prendre. Et à noter aussi là que ce qui s'est passé, si je ne dis pas de bêtises, ici là j'ai déjà ce qu'on retrouve. Alors je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici là, j'avais la possibilité. Donc là je suis parti dans la console SCOM, l'écran que je vous ai montré tout à l'heure. Ici j'avais déjà la possibilité de télécharger une première trace IntelliTrace pour pouvoir commencer à regarder, à voir comment j'allais pouvoir corriger mon problème. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a été aussi liée, donc là, des fois, il y a un petit délai, c'est pour ça que ça s'est pas fait tout de suite, elle a été aussi liée à mon work item directement, et j'ai la possibilité de l'ouvrir, elle est maintenant attachée directement dans mon work item, quoi. Donc la traçabilité est forte, et je l'ai normalement aussi en attachement. Voilà. Ok, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup l'ouvrir pour voir ce qui se passe. Bon, là, on est sur une exception assez simple. Donc, avec ce petit log-là, je devrais être en mesure de comprendre ce qui s'est passé. Bon, il s'avère que quand j'essaye de créer mon rapport, je dois récupérer toutes les informations sur mes customers qui sont associés à mes employés. Et en l'occurrence, là, il y a un customer qui est vide. Donc, du coup, j'ai une nulle référence exception parce que le string format ne passe pas. Bon, c'est très simple. Là, je vous ai expliqué. Mais bon. En fait, je ne suis pas vraiment très, très alerte en tant que développeur. Donc du coup, bah, cette IntelliTrace-là, elle ne m'a pas suffi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon IT de me fournir plus d'informations. Donc je vais lui dire, bon bah écoute, donne-moi plus d'infos. Et là, je vais lui dire, s'il te plaît, as-tu l'IntelliTrace complète ? IntelliTrace, ça prend 2 L d'ailleurs. Voilà, donc là, si je repasse côté... J'ai changé mon statut ici, côté dev, et si je repasse côté IT, là, mon statut a changé, awaiting evidence, et là, je sais, donc, je le sais par l'historique en tout cas, que as-tu l'IntelliTrace, donc voilà, en gros, le développeur m'a demandé l'IntelliTrace. Donc là, pour ça, je peux aller collecter un snapshot de l'IntelliTrace, donc parce que l'IntelliTrace aussi tournait en production, et ce snapshot-là, il va contenir plus d'éléments qui vont me permettre de corriger, voire les problèmes qui se sont passés en amont, qui ont peut-être impacté le problème actuel. Et de la même manière que le premier fichier d'IntelliTrace a été attaché à mon work item, celui-là devrait être aussi attaché à mon work item. Donc toujours pareil, il y a un petit délai, même si j'ai surchargé les règles, c'est pas sûr qu'il apparaisse tout de suite. Et puis là, du coup, en tant qu'IT, je vais rediriger vers mon développeur pour lui dire que voilà, j'ai bien pris en compte sa demande et que j'ai bien fait le boulot. Hop, donc je retourne côté dev. Ici, ça m'a été réassigné. Et bon, là, on va voir dans les links, mais a priori, ouais, ça y est pas tout de suite, ça y est pas immédiatement. Ça y sera peut-être plus tard. Bon, en tout cas, voilà, là, j'étais en mesure avec ce fichier-là, cette exception-là, de comprendre ce qui s'est passé. On peut imaginer qu'il a pris le nouveau fichier d'IntelliTrace. Je vais faire la correction ici. Hop. Donc, ce que je vais faire, parce que je suis un bon développeur, je vais dans My Work, je vais m'assigner le travail que je suis en train de faire en cours. Voilà. L'operational issue, c'est la numéro 22. Donc je vais m'ajouter aussi le work item operational issue. Donc là, normalement, le fait de la passer dans le work in progress, j'ai modifié légèrement le workflow de l'operational issue pour qu'il passe automatiquement en work in progress, justement, quand je la mets dans my work. Et ça devrait être le cas. Voilà, work in progress. Donc ça s'est fait automatiquement avec le système de my work. Et donc maintenant, je peux faire ma correction. Employee report view model. Hop. Donc en gros, tout simplement, s'il veut bien taper, si mon customer, d'accord. Donc si mon customer est, je suis un peu handicapé. Si mon customer est différent de nul, alors c'est bon, je peux renvoyer ça. Voilà. Et sinon, je vais retourner une autre string, no customer. Voilà. Hop. Voilà, ça normalement, ça devrait faire le boulot. Ok, je recompile pour vérifier que c'est bon. Et si c'est bon, ouais, j'ai fait tous mes tests unitaires, évidemment, comme j'avais pas prévu de test unitaire pour ça, j'en ai créé un par-dessus, vous êtes d'accord avec ça. Et là, je mets OK pour la correction du problème sur le rapport. OK, et là, je vais passer tout le monde à Resolved. Donc là, pareil, j'ai modifié aussi le workflow de l'operational issue pour que quand je la passe à Resolved au moment d'un check-in, ça la passe automatiquement, elle aussi, à Resolved, et que du coup, mon IT soit au courant que j'ai fait la modification. Je fais mon check-in. Voilà qui est fait. Et du coup, ce que je vais dire, donc je reprends mon operational issue et je vais dire à mon IT que du coup, il faut prévoir le déploiement en production. Voilà. Ok. Il était passé à Resolved, c'est normal. Et donc là, du coup, c'est passé à Scheduled. Je le passe à Scheduled pour lui dire, maintenant, il faut prévoir le fait de le mettre en production, parce qu'évidemment, je ne vais pas le passer en production directe. Donc juste pour information, je repasse côté IT. Côté IT, on voit que c'est Scheduled. Donc moi, je m'arrange avec mon dev et je lui dis, OK, c'est bon, on va le passer en production. Là, on pourrait imaginer, pour le passage en production, on pourrait imaginer d'utiliser, par exemple, Release Management. Je ne sais pas si vous êtes allé voir déjà les sessions sur Release Management. Pour pouvoir garantir la traçabilité de notre mise en production et faire ça de façon sécurisée avec des possibilités de rollback, etc. Là, dans ce cas précis, j'ai juste une build qui va me permettre de déployer mon site web en production. Donc je lance cette build. De toute façon, quand on va utiliser RM, le point d'entrée, c'est la build, généralement. Enfin, en tout cas, pour assurer le maximum de traçabilité, le mieux, c'est quand même la build. Donc là, ce que va nous fournir déjà cette première étape-là, c'est déjà un premier rapport avec les work items qui ont été impactés depuis la dernière fois, les change sets. Donc voilà, on capitalise sur le fait d'utiliser Team Foundation Server en collaboration avec l'IT. Donc là, la build se finit. Voilà, donc ce que je vous disais juste à l'instant, le change set, les work items associés, l'operational issue et la tâche qui montre le travail que j'ai effectué. Et maintenant, si je retourne une dernière fois côté SCOM, là, normalement, mon rapport devrait fonctionner. Bon, le fait que j'ai redéployé, du coup, ça a recyclé l'application pool, et du coup, ça va mettre un petit peu de temps pour afficher le rapport, mais normalement, le rapport devrait s'afficher. Donc au final, qu'est-ce qu'on a montré ? Enfin, qu'est-ce que cette démo a montré ? Que côté dev, j'étais bien outillé, parce que l'IT avait pu me fournir la collecte de l'IntelliTrace, et donc du coup, moi, j'étais en mesure de pouvoir corriger avec le maximum d'informations de production, enfin, le maximum d'informations issues de mon environnement, pour pouvoir bien analyser ce qui s'était passé, etc. Donc voilà, James a no customer, donc ça fonctionne ici. Donc ça, c'était pour la partie dev. Partie IT, bah, moi, je m'assure que du suivi de mon alerte, moi, potentiellement, une système nulle référence exception, bah, je ne suis pas obligé de savoir ce que c'est. Donc du coup, bah, je m'assure que mon problème va être corrigé. Et côté management, CP, chefferie de projet, ce que vous voulez, on s'assure que tout ce petit cycle est bien tracé et on capitalise sur tout ce qu'on fait. On est sûr que le dev, le temps qu'il a fait, il n'a pas fait ça en sous-marin, il n'y a pas d'échange de mails, voilà, c'est plus simple.
Fini ?
J'ai fini.
Ouais.
Alors, du coup.
Alors, donc, ce que Grégory vous a illustré, c'était plus sur la partie collaborative et sur la partie traçabilité de l'ensemble des échanges. Bien évidemment, là, on ne montre pas parce qu'on n'a pas le temps. Il y a plein de possibilités de plus ou moins industrialiser. De la même manière, il y a plus ou moins de possibilités de faire des dashboards pour se baser sur ces informations-là, pour avoir des vrais tableaux de bord de suivi, de traitement d'incidents, d'arbitrage d'incidents, de dire si j'ai la même sur une petite équipe chez un petit éditeur ou son équipe de développement et son équipe de maintenance est la même, eh bien, il faut arbitrer entre les nouvelles fonctionnalités à réaliser, arbitrer entre les anomalies qu'on trouve pendant les tests et les feedbacks qui sont faits pendant la phase de développement, et arbitrer en plus avec les incidents qui viennent de la prod. En règle générale, eux, ils sont prioritaires. Donc, pour revenir sur le deuxième scénario que je vais vous présenter maintenant, comme on sort un peu de la collaboration et je reviens sur la partie un petit peu plus au niveau de télémétrie et comprendre nos utilisateurs pour pouvoir réagir et les satisfaire, je vais revenir sur la partie instrumentation et pourquoi on fait de la télémétrie, pourquoi on veut instrumenter l'ensemble de notre produit. Alors de manière plus précise par rapport au rôle, pour le marketing, pour le responsable produit, l'objectif c'est d'avoir des moyens, des faits pour pouvoir mesurer le succès. C'est quoi le succès de mon application ? Est-ce qu'elle est bien utilisée ? Est-ce qu'elle est rentable ? Mesurer son retour sur investissement de manière globale et de descendre à la rigueur à la fonctionnalité ou au service rendu. C'est aussi de pouvoir mesurer dans le temps la fidélité d'usage des utilisateurs au niveau de l'application et également d'en déduire leur comportement d'usage pour pouvoir créer de nouveaux usages, pour pouvoir améliorer toujours notre application et anticiper ce que l'utilisateur attend de notre application, sans même parfois encore le savoir. Donc c'est de comprendre ses attentes et c'est toujours dans la même logique, on a un budget qui est toujours en règle générale fixe, bah, c'est d'aider à la priorisation et à l'arbitrage. Peut-être qu'à l'usage, on va voir qu'il y a des fonctionnalités et des écrans qui sont plus utilisés que d'autres, et auquel cas, bah, il faut peut-être privilégier la maintenance, l'optimisation et le développement sur certaines fonctionnalités, et puis d'autres qui sont très peu utilisées, bah, tout simplement faire l'économie ou les reporter de manière agile à plus tard, quand on aura le budget ou la bande passante pour le faire. C'est aussi un moyen de mesurer tout ce qui est transformation. En marketing, ce qu'on appelle le funnel, c'est l'entonnoir, c'est de dire comment je capte un maximum d'utilisateurs pour les faire rentrer dans le même chemin d'usage de mon application pour rentabiliser un maximum les fonctionnalités que je lui propose. D'un point de vue ergonome et business analyst, si on va un peu plus dans le détail, c'est lui de capitaliser, là on est bien en mode réactif, on est bien en production, on collecte le vrai usage de notre application, c'est d'obtenir le retour d'expérience utilisateur pour être à l'écoute, pour comprendre l'utilisateur, par quel chemin il est passé dans l'application, par quel moyen il arrive à consommer un usage en fonction de l'organisation, en fonction de la complexité des use cases. On a souvent des écrans différents et des chemins différents dans les écrans qui nous permettent de consommer un service et d'avoir un retour. C'est détecter des nouveaux cas d'utilisation qu'on n'avait absolument pas prévus et c'est les utilisateurs qui, en essayant l'application dans certaines circonstances, nous font découvrir que, bah, y a un manque, ou au contraire, il y a peut-être une nouvelle opportunité, de nouvelles fonctionnalités métier ou tout simplement une nouvelle façon d'aborder l'ergonomie. On peut refondre que l'interface graphique avec un ergonome pour proposer une IHM un petit peu plus avancée. Faire de la télémétrie, c'est également aussi se donner la possibilité, l'arbitrage, j'en ai déjà parlé, mais aussi de faire du test canari. C'est quoi le principe? C'est de dire vous êtes en prod, vous êtes en mode SaaS par exemple, c'est de dire j'ai une nouvelle idée, une nouvelle fonctionnalité, développons-la rapidement une petite V1 et mettons-la tout de suite en prod et faisons-la audité finalement et utilisé en production par une petite partie de la population de mes utilisateurs. Et sur cette petite partie, je vais voir, ça va me faire un panel finalement virtuel et pour le coup gratuit puisqu'ils utilisent l'application comme les autres. Et de là, on va pouvoir collecter des mesures pour dire effectivement est-ce que c'est une fonctionnalité qu'on doit rejeter dans la prochaine release ou au contraire la déployer pour tous les utilisateurs. En termes d'instrumentation pour les devs, bon, bah, ça c'est déjà du plus classique, la majorité de la salle était au niveau du dev, donc c'est tout ce qui est être réactif aux bugs et arriver à diagnostiquer vite et éviter les problèmes de nos repros. C'est également détecter comment améliorer les performances et c'est toujours contrôler le changement et comprendre les bugs qui sont liés à l'environnement IT et dépendance. Donc je voulais juste refixer par rôle avant de vous le présenter. Pour l'IT, capteur de performance, diagnostiquer la cause de l'incident, c'est la partie que Grégory vous a montré. Donc, hop. Donc maintenant, moi, je vais vous présenter le scénario App Insight, qui est en preview et qui est online, que vous pouvez retrouver dans votre visual sur visualstudio.com. Donc j'ai ici un tableau de bord, je m'enflamme. Je croyais l'avoir ouvert, et a priori non. Donc App Insight, comment ça se passe? C'est un tableau de bord, comme je vous l'ai dit, qui va collecter tout un tas d'informations, parce qu'on va instrumenter l'application, on va instrumenter l'environnement d'exécution. Et donc, on a une fonctionnalité de tableau de bord qu'on peut complètement personnaliser. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les détails de la personnalisation, mais on peut faire pas mal de choses. Une des premières choses en fonctionnalité que moi j'aime bien dans ce système-là, c'est par exemple la disponibilité. Donc là, j'avais une petite vue, un indicateur sur ma disponibilité pour surveiller en permanence mon site web. Là, c'est un site web qui est en staging à côté, mais qui représente notre site web. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir définir des scénarios pour tester en permanence la disponibilité de mon application. Alors, ce qu'on peut faire simplement, on peut faire un petit agent qui fait un get et un petit ping pour vérifier que la machine est disponible en ping, et puis faire un petit get HTTP sur la page homepage pour voir que c'est toujours disponible, et être content avec ça. Ce qui est intéressant avec cet outil, vous pouvez le voir là, c'est que comme on est dans le cloud, on va déléguer à Application Insight, on va déléguer ce ping et ces requêtes HTTP. Sauf qu'on va aller plus loin que de faire juste une requête HTTP. On va pouvoir carrément prendre un scénario de test de performance et de chargement dans Visual Studio. Si j'ai le temps, je vous le montrerai après où je le prendrai à l'exécution. Le télécharger, c'est le scénario ici, scénario nav standard. Donc j'ai utilisé un outil de test de mon application pour naviguer dans mon application web. Je l'ai publié sur App Insight, et là, dans le cloud, sur tous les pays, sur tous les nœuds du cloud que j'ai sélectionnés, Amsterdam, Moscou, Zurich, Sydney, Londres et Paris, parce que ce qui m'intéressait par rapport à mon site, eh bien, il va exécuter ces scénarios toutes les 5 minutes pour vérifier la disponibilité. C'est ce qui va me générer tous les points verts. Les points verts, c'est pour me dire mon application, mon serveur, il est pingé, mon scénario est joué complètement. Donc là, je ne suis plus en train de vérifier que ma home page est disponible, je suis en train de vérifier que je passe dans le scénario par défaut que je souhaite que mes utilisateurs utilisent. Donc je simule des vrais utilisateurs. Je suis garanti quelque part que mon service que je souhaitais proposer à mon utilisateur, il l'utilise de bout en bout. D'accord ? Et donc, après, la hauteur de mes petits points verts pour me dire que c'est atteignable, ça fonctionne, quel que soit le pays, quel que soit le continent ou le pays dans le monde, je vais ensuite avoir le temps de réponse, c'est-à-dire qu'on voit que voilà, par exemple, Zurich, c'est pourtant juste à côté, j'ai eu à un moment donné un temps de latence plus important que ma moyenne. Alors on pourrait aller cliquer dessus et regarder, voir pourquoi, comment, etc. Et là, je m'aperçois qu'il y en a qui sont en défaut. Donc là, c'est du live. Je vois qu'il y en a en défaut à Amsterdam, Moscou, et Sydney. Donc je vais cliquer sur celui d'Amsterdam pour aller voir. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Je vous parlais tout à l'heure du scénario de test que je n'ai pas le temps de vous montrer, qu'on aurait utilisé avec Visual Studio pour le construire. Eh bien, vous allez retrouver toutes les étapes des get de votre scénario test et performance, merci. Et on va voir effectivement à chaque étape où est-ce que ça s'est mal passé. Donc je vois qu'il a effectivement téléchargé une partie de mes écrans. Je peux aller effectivement dans le dernier. Là, j'ai une erreur interne du serveur, donc je pourrai aller voir plus loin. Je vais vous le montrer après. Donc ce qui est intéressant là, c'est juste la disponibilité. Je ne suis pas en train d'essayer de débugger mon application. On attire juste mon attention sur le fait que le scénario par défaut que je souhaite que mes utilisateurs parcourent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, ils arrivent bien à le réaliser. J'ai des petits soucis, alors je peux aller plus loin et ouvrir mon web test result directement dans Visual Studio pour pouvoir potentiellement, je vais l'ouvrir, si c'est pas trop long, voilà. Et donc vous retrouvez bien, pour ceux qui connaissent, un résultat de test exécuté, et je vais avoir le résultat qui a été exécuté dans le web, donc c'est quand même génial, ça a été exécuté, c'était à Amsterdam. Et bien à Amsterdam, a priori, j'ai eu un problème au niveau du MVC. La requête, j'avais le détail de la requête, c'était sur le Tegeco Website Cloud App. La réponse qui a été envoyée, etc., etc. Après, c'est du débugage HTTP. Okay, donc ça, c'était un des premiers points. Et donc ce scénario que je vous ai montré dans Visual Studio, j'aurais pu effectivement le réexécuter tout de suite sur mon environnement local pour vérifier que ça se passe bien. Comme là, je suis dans de la disponibilité, je sais que mon scénario marche bien. C'est forcément un problème, vraisemblablement, d'environnement, de configuration de l'environnement, peut-être d'un bout de code qui fait péter, mais comme ça ne le fait pas ailleurs, il faudra introspecter. Le deuxième aspect qui est intéressant, je vous ai dit que tout ça était géré dans le temps et on gérait la configuration et le versionning. Ce qui est intéressant ici, on voit la disponibilité, donc je peux me déplacer dans le temps, c'est quand même relativement ergonomique en termes d'interface graphique. Vous avez des petites informations ici, c'est quoi ? C'est des petits jalons pour me dire les déploiements qui ont été réalisés. Oui, c'est intéressant, ça me permet d'analyser l'impact du changement sur mon environnement de prod. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai fait une build qui a été déployé avec Release Management, donc tout le workflow, tout a été validé par toute l'équipe de DevOps. Et à un moment donné, dans la vraie vie en production, j'ai des problèmes qui se passent juste derrière cette mise en production. Donc je peux aller dessus, s'il veut bien retourner.
Ou pas.
Non, elle marche bien cette preview. Il faut juste être un peu patient. Voilà, il m'indique que j'ai eu... que j'ai eu 4 déploiements le même jour, à 12h41 aujourd'hui. On est large.
On était assez large.
Donc là, c'est un déploiement qui était vraiment effectué. Alors Grégory, tout à l'heure, quand il a dit build et je déploie directement, c'était une possibilité de faire comme ça, ou on aurait pu passer par release management. Cette build qui a été déployée, je retrouve toute la traçabilité puisque je retrouve mes informations de build, mon serveur de build. J'ai le build report, donc je peux aller tout de suite plonger, de dire la version qui a été mise en production, qu'est-ce qu'il y a eu dans la build, qu'est-ce qu'il y a eu dans la release. C'est en gros la release note et les problèmes de build. Oh bah bravo. Et donc,
tout ça, c'est dans VS Online, c'est-à-dire que là, même le serveur de build, les sources sont dans VSO, le serveur de build est aussi dans VSO, le déploiement, là, c'est fait à travers VSO et WebDeploy, et en plus, on a déployé un petit fichier, enfin, lui a demandé de générer le build info.config, qui m'a permis d'obtenir toutes ces informations-là attachées à la build.
Donc ce qui est intéressant, c'est quelque part, si on avait associé tous les work items de modification, de changement, on aurait la liste des changelogs. Enfin, vous connaissez les reports de build pour la plupart, vous retrouvez votre report de build actuel. Donc en production, je sais ce qui a été déployé réellement. Et je peux aller, et ça c'est quand même, moi je trouve ça assez bien, je peux aller directement ouvrir à partir d'App Insight mon Visual Studio pour aller retrouver mon environnement dans mon Team Foundation Server, dans mon Source Control, retrouver la branche, le moment où j'ai buildé, pour me remonter, je ne vais pas faire là parce que ça prend un peu de temps, pour me remonter, shelver ce que j'étais en train de faire, et me remonter dans mon workspace, la version du code telle qu'elle est en production actuellement. Parce que moi, en tant que développeur, si je suis dans la même équipe, je vous ai dit, parfois, c'est les petites équipes qui font les deux. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que je peux tout de suite réagir à un incident qui est en prod, arrêter le travail que j'étais en train de faire en termes de dev. Et ça, pour une start-up qui a des petites équipes, c'est juste génial, parce que c'est ensuite chez l'environnement, quoi, directement. Large. Voilà, donc ça pour vous montrer la gestion de la configuration, la disponibilité en même temps, le rapport entre on est en prod et le lien avec le dev. Chose intéressante aussi, c'est que je pourrais introspecter, pareil, je ne vais pas le faire là, je peux faire un contrôle et prendre deux, ou pas, compare mode, voilà. Je peux prendre deux versions qui ont été déployées et comprendre et comparer mes deux sources contrôle entre deux déploiements que j'ai réalisés. Si j'ai eu un incident entre, c'est de comprendre qu'est-ce que j'ai modifié dans le code pour arriver à l'incident que j'ai en production. J'ai été clair là ou... Ok. Autre élément de télémétrie intéressant. Je vais essayer de faire tous les rôles assez rapidement. Donc là, j'étais sur un site web, ça aurait pu être du e-commerce. Bon, des PKI, tout ça, je peux avoir tout un tas de tableaux de bord que je peux complètement modifier et personnaliser. Autre aspect intéressant, c'est par rapport aux usages. Par rapport aux usages, bon, site web, très bien. Plus classique, je vais pas m'étendre. On a la capacité d'analyser le top des pages qui ont été utilisées, téléchargées, les temps de réponse qui ont été réalisés dessus, voir les chemins utilisateurs. Enfin là, on est plus dans de l'analytique de parcours de site web classique, mais toujours avec cette gestion du changement et d'avoir toujours la version qui a été déployée. Autre aspect intéressant, je vous ai parlé de métriques à des fins métiers, à des fins d'usage. Eh bien, on peut créer des events. Là, j'en ai un de type contact. Et le principe, c'est quoi? C'est juste mettre un compteur et de dire, finalement, chaque fois qu'on va sur mon site, et j'aimerais comprendre comment, à la fin, on fait un site corporate. Le principe, c'est qu'à la fin, on présente ce qu'on fait. Ce n'est pas un site de e-business, c'est un site où c'est corporate, je te présente ce que je fais comme offre et contacte-moi. Donc le principe, c'était de mettre un événement qu'on a customisé, développé, pour dire, eh bien, chaque fois qu'un utilisateur clique sur « Contactez-moi », on a tracé au préalable le chemin par lequel il est passé pour arriver sur « Contactez-moi ». Ce qui va permettre, justement, de voir les utilisateurs par quelle offre ils passent, par quel axe de navigation ils passent le plus, on a le plus de succès pour qu'ils déclenchent là, nous contacter l'équivalent d'une vente dans un site de e-business. C'est-à-dire, effectivement, je suis dans mon catalogue, je remplis mon panier, et à la fin, est-ce que je commande mon panier ou pas? Et donc, c'est de détecter pourquoi, à un moment donné, il n'a pas été jusqu'à valider son panier. Donc ça, c'est cette notion de gestion d'événements personnalisés. On peut le faire pour des raisons techniques. Moi, j'aime bien c'est de le faire pour des raisons métiers, puisque ça va permettre de ramener de la télémétrie d'usage réel qui va permettre de donner des éléments factuels au marketing, aux responsables produits, pour les aider aussi à arbitrer et avoir de temps en temps, savoir un peu prioriser parfois qu'est-ce qui est essentiel à développer dans l'application ou qu'est-ce qui est prioritaire. Un autre exemple sur des applications plutôt mobiles, je vais le prendre celui-là parce que ça me permet de réduire complètement les scénarios. Ça, c'est une application Windows Phone qu'on a développée de sortie VTT. Ce qui est intéressant, super large. Vous préférez qu'on vous montre ou poser des questions? Bah, je vais continuer à montrer alors. Là, je vais prendre juste un angle et un indicateur qui est intéressant. Au niveau de l'usage, bon, il y a les features, c'est-à-dire le chemin par lequel je passe, les événements, je vous en ai parlé, les erreurs, je ne vous en parle pas, c'est des exceptions qui sont tracées, ce genre de choses. Par contre, je vais aller sur mes utilisateurs et avant d'aller chez mes utilisateurs, je vais regarder les environnements qui utilisent mon application. Là, je suis dans une application qui est mobile. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur quel environnement est exécutée mon application, parce que ça peut me donner des indications de développement. Je prends un exemple, la résolution de l'écran. Bah aujourd'hui, l'application VTT, je m'aperçois que la majorité, c'est des écrans en 480x800. Enfin voilà, j'ai différentes résolutions. Eh bien, quand vous démarrez un projet, vous ne vous posez jamais la question de dire sur quelle résolution minimale on commence à développer. Et on se pose toujours ces questions. Alors au début, on prend des normes, des standards qui évoluent au fur et à mesure que la technologie évolue. Bon, bah là, on peut très bien démarrer avec une résolution, être responsive, et après bah, réduire le scope. Et donc, on va donner des indications à l'ergonome pour améliorer son interface graphique et l'optimiser pour éviter de faire du code pour régler toutes les résolutions et tous les cas possibles ou de faire des compromis sur l'interface graphique parce qu'on veut encore pouvoir tenir sur des plus petits écrans ou des plus grands écrans. Aspect intéressant, moi, que j'aime bien sur cet exemple-là, sortie VTT, c'est des gars qui sortent en VTT dehors. Et là, c'est flagrant, c'est des données réelles, d'accord, qui sont récentes. Hein, on a mis les métriques il y a 4-5 jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que l'application elle est plus utilisée par le réseau cellulaire. C'est normal, ils sont dans la nature en train de pédaler et se promener. Et Wi-Fi, il y en a un petit peu. Bah oui, parce qu'il y a toute la phase de préparation de sa sortie VTT, de l'organisation de sa sortie. Et on a une petite partie, ça, c'était, on n'y avait pas pensé, pas de réseau. C'est-à-dire qu'il y en a qui l'utilisent juste à titre d'information. Après, ils n'utilisent pas la géolocalisation, la météo, etc. Ils sont juste contents de se souvenir de l'adresse. Mais ça veut dire que... il y a cet usage-là, donc il y a un côté offline qu'on peut peut-être développer faire quelque chose au travers de ça. Je bascule tout de suite sur une autre application qui est Freebox Body pour piloter la Freebox. Ce qui est intéressant, ça c'est plutôt l'inverse. La Freebox, c'est à la maison, hein, c'est une box internet. Et on est plutôt dans un usage domestique. Eh bien, ça se traduit de manière factuelle au niveau du réseau, c'est-à-dire que là on s'aperçoit que l'application elle est majoritairement utilisée en Wi-Fi. Pour éviter de payer la connexion, c'est pour piloter sa Freebox, pour voir ses appels, pour gérer ses contacts, pour faire ses téléchargements Lego, pour faire enfin, ce genre de choses. Et il y a une petite partie cellulaire qui est utilisée, bah oui, parce qu'on peut consulter ses appels qui ont été effectués chez soi. Donc bah, la proportion est un peu moins importante. Mais vous voyez deux typologies d'applications différentes, et on a des métriques qui correspondent bien à l'usage, et qui vont permettre de voir comment on peut organiser les usages. Autre aspect... donc je me fasse, voilà. Autre aspect, c'est par exemple aussi de voir un petit peu tous les devices qui sont utilisés. Là, on ne contrôle rien. On développe une application pour Windows Phone, mais bon, il y a du Lumia, il y a beaucoup de Nokia, il y a beaucoup de Lumia, mais il y a plein d'autres téléphones, des devices qui apparaissent. Et je vous rappelle, je vous ai dit, on ne maîtrise pas tout. Les devices que vous avez utilisés pour tester, on ne les a pas tous hein, pour tester. On en a un pourri, un bien et un très bien. On ne les a pas, les intermédiaires. Eh bien, tout simplement, en collectant ces informations-là, oui, on a des bugs de temps en temps sur un téléphone, un truc un petit peu exotique. Eh bien, en fonction de l'usage du côté exotique du téléphone, s'il est beaucoup utilisé, eh bien, on va faire l'effort de faire le code, le petit différentiel de code qui fait que ça se passe bien sur ce device-là. Si c'est un pourcentage négligeable, bah on le fera si on a du budget, qu'on a rien d'autre à faire. D'accord. Qu'est-ce que je peux montrer? Alors si au niveau usage et au niveau marketing, la loyauté de mes utilisateurs. Alors ça, je vais pas vous montrer celui-là. Je vais aller sur un autre site qui est plus intéressant. Donc là, je vais sur un autre App Insight qu'on m'a gentiment prêté temporairement. Et donc, si je regarde, j'étais sur les utilisateurs, usage, merci. Au niveau de mes utilisateurs, ce qui va être intéressant, c'est un petit peu leur loyauté pour étudier, pour voir est-ce qu'ils utilisent beaucoup mon application ou pas. Sur des applications qui sont sociales, sur des applications SaaS, ou qui marchent sur abonnement, ça peut être intéressant de le savoir. Donc là, ça c'est une application qui tourne en production, qui sert à une gestion de projet, et on s'aperçoit qu'il y a 122 utilisateurs par jour, sur le nombre total, qui viennent tous les jours utiliser mon application. Et puis, de 1 à 3 jours, eh bien, j'en ai plus qu'une trentaine. De 4 à 7 jours, 40, etc., etc. Donc, c'est intéressant de voir justement ceux qui utilisent tout le temps l'application, de ceux qui ne l'utilisent pas tout le temps. Là, c'est une application de gestion de projet. Les utilisateurs sont authentifiés, identifiés. Donc, on pourrait très bien déterminer leur rôle et peut-être faire plus de fonctionnalités pour eux que ceux qui viennent une fois de temps en temps. Peut-être qu'on s'aperçoit qu'en fait, les managers et les responsables produits l'utilisent beaucoup. Et puis, bah, en fait, les développeurs ils viennent moins souvent parce que c'est juste pour contrôler un backlog. C'est aussi d'avoir le ratio entre les nouveaux utilisateurs qui arrivent. Eh oui, 3. Yes. Et les anciens. En tout cas, la preview, elle est accessible. Vous pouvez l'essayer. Il y a 3 minutes si vous avez des questions. Sinon, avec Grégory, on sort à côté et on répond à toutes les questions que vous voulez jusqu'à ce que mort s'en suive.
Merci à tous.
Merci.